Vous écoutez On lit pour vous.
Femme trans, femme épanouie. Un texte de Philippe Mercure, paru le 17 mai 2026 dans La Presse. Si elle a surmonté nombre d'épreuves, Sacha Baga vit aujourd'hui sa best life. Retour sur le parcours de combattante qui a mené la drag queen à enfin être elle-même et à vouloir servir de modèle aux jeunes trans, elle qui en a cruellement manqué. Ne vous laissez pas décourager par le début de l'histoire. Ceci n'est pas un récit tragique. Oui, la vie de Sacha Baga, femme trans et drag queen de son métier, a commencé durement, très durement même. Pensez intimidation, rejet, tentative de suicide, viol, séropositivité, excès de drogue et d'alcool. Malgré tout, Sacha Baga insiste. C'est un message positif qu'elle veut transmettre. Une fois que tu t'assumes et que tu fais les changements que tu dois faire, la vie est tellement le fun. Moi, j'ai 40 ans et ça fait 10 ans que je vis ma best life, lance-t-elle. Ça crève effectivement les yeux. Sacha Baga, de son vrai nom, Sacha Boucher Godmer, rayonne. Je l'avais rencontrée une première fois lors d'un reportage portant sur le quartier Centre-Sud à Montréal, où elle supervise une équipe formée d'anciens pensionnaires de la Maison du Père qui nettoie les trottoirs. Je l'ai vue interagir, flamboyante. Elle était débarquée sur place avec son aura de cheveux blonds et de bijoux, vêtue de longues bottes de cuir blanche, attachante, avec naturel et empathie avec les gens les plus poqués du Centre-Sud. Voilà quelqu'un qui n'entre dans aucune des cases dans lesquelles les humains veulent trop souvent s'enfermer, m'étais-je dit. Intriguée par le personnage, j'ai sollicité une deuxième rencontre. Nous nous retrouvons donc au Pigeon Café, au cœur du village. C'est là, en sirotant un espresso, que je mesure l'ampleur des difficultés qu'elle a surmontées avant d'en arriver à la confiance qu'elle affiche aujourd'hui. « Le début de l'histoire est dégueulasse », confirme-t-elle. Sacha a grandi comme un petit garçon à Amos, en Abitibi, avec le sentiment diffus d'être né dans le mauvais corps. Déjà à 3 ans, je disais que j'allais avoir un mari. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas mettre de robe pour aller à l'école ou ne pas avoir les cheveux longs, raconte-t-elle. Ni ses parents, ni les autres enfants n'accueillent bien cette différence. Je me faisais intimider du moment où j'embarquais dans l'autobus jusqu'à celui où j'en débarquais, témoigne-t-elle. À l'époque, personne, pas même la psychologue qu'elle consulte, ne semble connaître le concept de dysphorie de genre. Cette détresse éprouvée par ceux qui ont l'impression que leur sexe ne correspond pas au genre qu'ils ressentent. Faute de modèle, Sacha ignore elle-même la cause de son mal-être. Alcool, drogue, tentative de suicide en 4e secondaire, Sacha comprend qu'elle doit quitter l'Abitibi. Ses parents sont séparés et elle trouve refuge chez son père dans la région de Montréal. Elle s'inscrit au cégep Lionel Groulx en arts plastiques. C'est là que j'ai rencontré des gens colorés, des gens de la communauté queer, raconte-t-elle. J'ai découvert un univers que je ne connaissais pas. J'ai vraiment explosé. J'ai laissé sortir ma féminité. Se croyant gay, Sacha en fait l'annonce à son père. La réaction est brutale. Il la met à la porte. Ils seront 6 ans sans se parler. Sacha fréquente le village. Un soir, au Stock Bar, elle assiste à un spectacle de drag queens. « Ça m'a jetée par terre », se rappelle-t-elle. Cette même soirée, j'ai vu pour la première fois des femmes trans. Je les ai trouvées magnifiques, bien maquillées, avec de longs cheveux, de hauts talons, des robes sexy. C'est venu chercher quelque chose en moi. Un jour, un ami qui travaille au bar Le Drugstore demande à Sacha de faire son propre numéro de drag queen. C'est la révélation, tant pour elle que pour les spectateurs. « Je suis rapidement devenue très populaire », raconte-t-elle. « Et ça a commencé à me jouer dans la tête. Quand je faisais mes performances, je me sentais bien. J'avais une facilité à parler aux gens. Je me demandais, est-ce que c'est juste la popularité? Ou bien il y a quelque chose dans la façon dont je me présente aux gens? » Son cheminement se fait lentement. Elle se lie d'amitié avec une femme trans qui la dirige vers une sexologue. Mais c'est un traumatisme qui sert de déclencheur. Sacha subit une agression sexuelle collective dans un sauna de laquelle elle contracte le VIH. S'ensuivent une dépression majeure, 2 ans de consommation de drogue excessive, puis une hospitalisation pour une 2e tentative de suicide. À l'hôpital, il y a eu un déclic, dit-elle. Je me suis dit, ça ne peut pas juste être des problèmes de consommation et des problèmes de confiance en moi. Elle reprend rendez-vous avec la sexologue. Au bout d'un an de thérapie, Sacha en vient à l'évidence. Elle est une femme trans. À 29 ans, elle entame sa transition en prenant des hormones féminisantes et des bloqueurs de testostérone. C'est comme si quelque chose s'était placé, se souvient-elle. Là, j'étais sur mon X. J'étais bien avec moi-même et avec les autres. Autre belle surprise, son entourage prend très bien la chose. Même son père, qui avait si mal réagi à sa sortie du placard, l'accepte. Il avait cheminé, constate Sacha. Ma mère a eu un petit peu plus de misère. Elle l'a accepté sur le coup, mais elle a verbalisé qu'elle avait dû faire le deuil de son petit garçon, ce qui est aussi compréhensible. J'avale ma gorgée de travers en apprenant qu'elle perd toutefois des contrats de spectacle. C'est que, dans le milieu, on considère qu'une drag queen doit être un homme déguisé en femme, et non une femme. Décidément, ce réflexe de vouloir faire entrer les gens dans des cases est présent vraiment partout. Sacha Baga compte toutefois sur un allié, la drag queen Rita Baga, incarnée par Jean-François Guévremont. Le nom de famille commun n'est pas une coïncidence. Suivant la culture du ballroom, les drag queens forment des familles, les plus expérimentées adoptant des enfants. Jean-François Guévremont est toujours l'agent et le plus grand protecteur de Sacha Boucher-Godemer. J'ose certaines questions, en laissant Sacha libre d'y répondre ou pas. Mais elle accueille ma curiosité avec ouverture. Sa transition s'est-elle limitée à l'hormonothérapie? Pendant longtemps, je me suis dit qu'il fallait aussi faire une vaginoplastie, répond-elle. Elle a fini par réaliser qu'elle le souhaitait surtout pour correspondre aux standards de ce qu'est une femme. Eh oui, encore les fameuses petites cases. « Je suis heureuse comme ça », affirme-t-elle. « Les seules personnes que ça regarde, ce sont les personnes avec qui je suis intime. Et si je suis intime avec elles, c'est parce qu'elles sont à l'aise avec ça. » Elle dit avoir eu des copains autant gays qu'hétérosexuels. « J'ai une approche très directe. Je ne cache rien », lance-t-elle. Aujourd'hui, la carrière de Sacha Baga est florissante. En plus de travailler en réinsertion sociale dans le village, elle enchaîne les spectacles dans les bars, a co-animé l'émission de télé « La drague en moi » et joué dans plusieurs productions, dont la télésérie « FEM ». Elle est aussi très présente sur les réseaux sociaux et ce n'est pas pour rien. Elle veut servir de modèle aux jeunes trans, elle qui en a cruellement manqué dans les années 1990. Et la récente montée de l'homophobie et de la transphobie, qu'en pense-t-elle? « Je veux encore plus déranger à cause de ça, » répond-elle. « Je veux encore plus avoir ma face partout. »« Je suis chanceuse, » conclut-elle dans une phrase qui peut étonner compte tenu de son parcours. « J'ai 40 ans et je suis épanouie. » Ce n'est pas tout le monde qui arrive à 40 ans et qui est épanoui. Pour certains, ça n'arrive jamais. C'était « Femme trans, femme épanouie », un texte de Philippe Mercure, paru le 17 mai 2026 dans La Presse.
Un sursis pour assister à la naissance de son enfant. Un texte de Suzanne Colluperon, paru le 8 mai 2026 dans La Presse. La Cour fédérale a accordé un sursis au renvoi d'Andrés, l'éboueur mexicain dont La Presse avait relaté l'histoire dernièrement, lui permettant d'assister à la naissance de son enfant. Son expulsion vers le Mexique, qui devait avoir lieu lundi le 4 mai 2026, est suspendue jusqu'au 1er décembre. Le juge Sébastien Gramont a tranché en faveur d'Andrés, estimant que l'agente de l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC, n'a pas tenu compte de manière raisonnable de la naissance prochaine de son enfant dans sa décision de refuser le report du renvoi. « On est énormément soulagés. Je veux remercier le juge qui a suspendu l'expulsion. Ça nous soulage beaucoup », a réagi Andrés, alors qu'il était au travail en train de ramasser les ordures. Une décision déraisonnable. Ce qui a particulièrement retenu l'attention du juge, c'est le raisonnement de l'agente de l'ASFC pour justifier son refus. Celle-ci avait écrit que le souhait d'Andrés d'être présent à l'accouchement ne concordait pas avec du court terme car les moments importants dans la vie d'un enfant sont nombreux et s'étendent sur plusieurs années. Le juge Sébastien Gramont a rejeté cet argument, dont voici un extrait. Il est vrai qu'élever un enfant est une entreprise à très long terme. Néanmoins, la naissance elle-même est un événement relativement circonscrit. En statuant ainsi, l'agente a ignoré la jurisprudence établie de la Cour fédérale qui reconnaît qu'un agent de l'ASFC peut reporter un renvoi lorsque la conjointe du demandeur est enceinte. L'agente ne semble pas être consciente de l'étendue de sa discrétion et ignore la jurisprudence de notre cour, écrit le juge, qualifiant sa décision de déraisonnable. Le tribunal a également conclu qu'un renvoi immédiat aurait causé un préjudice irréparable. L'absence d'Andrés à la naissance de son enfant n'aurait jamais pu être compensée ou réparée. Le juge a aussi pris en compte l'état de santé de Diego, le fils de 12 ans de sa conjointe Irène, souffrant de problèmes de santé importants, des circonstances qui militent fortement en faveur d'un report. Son avocate, maître Anne-Cécile Coury-Raphaël, se dit soulagée. « Je suis contente et surtout rassurée que ce futur papa puisse passer du temps avec sa femme au moment où il va avoir son bébé », dit-elle. Elle souligne qu'il existe une longue jurisprudence de la Cour fédérale sur le fait que c'est important d'être présent au moment de la naissance d'un enfant, ce qui, honnêtement, paraît humain, logique. Elle rappelle toutefois que son client reste déportable. Mais à très court terme, souligne-t-elle, je suis vraiment soulagée pour eux, pour les deux. Pas une solution permanente. Le sursis accordé court jusqu'au 1er décembre, soit un peu plus de 2 mois après la date de l'accouchement prévue le 15 septembre. Il ne règle pas le fond du dossier d'Andrés. Il avait été débouté de sa demande d'asile, son appel avait été rejeté pour défaut de mise en état et sa demande d'examen des risques avant renvoi refusé en mars dernier. Après le 1er décembre, il sera normalement renvoyé dans son pays. Son seul espoir de rester ici repose sur le dossier de sa conjointe, qui a une demande d'asile en cours devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, CISR. Si elle obtient la protection, elle pourra l'inclure dans une demande de résidence permanente. Pour Maryse Poisson, directrice de l'intervention sociale au collectif Bienvenue, le soulagement se mêle à la frustration. On est soulagé, mais en même temps, on est vraiment frustré de devoir aller devant les tribunaux comme ça, alors que c'est une évidence qu'on ne devrait jamais renvoyer un père quand un enfant va naître, dit-elle. Maître Coury-Raphaël partage ce sentiment. À l'heure actuelle, il y a tellement de renvois dans tous les sens que toute victoire est bonne à prendre, même si elle est logique, dit-elle. Si je n'avais pas été mobilisée sur le dossier, il en serait resté à l'échelon précédent et donc Andrés aurait été expulsé. Ça me rassure, mais c'est encore une fois beaucoup d'énergie qu'il a fallu déployer. Note. Andrés et Irène ont demandé qu'on ne publie pas leur nom de famille pour des raisons de sécurité. C'était un sursis pour assister à la naissance de son enfant. Un texte de Suzanne Colperon paru le 8 mai 2026 dans la presse.
Neuf faits délicieux sur la rhubarbe. Un texte commandité paru le 11 mai 2026 dans la presse. La rhubarbe cache bien des surprises. Derrière ses tiges aux couleurs vives se trouve un légume robuste, cultivé au Québec depuis des générations, qui a voyagé à travers les siècles et les continents, parfois même à prix d'or. Voici 9 faits à son sujet qui vous permettront de redécouvrir cette plante aussi polyvalente qu'intrigante. Petit 1. C'est un légume. La rhubarbe est bel et bien un légume vivace qui est souvent considéré comme un fruit en raison de son goût acidulé et de sa popularité dans les recettes de desserts. Tartes, compotes et confitures. Elle vient de la famille des polygonacées, qui comprend aussi l'oseille et le sarrasin. Petit 2, elle aime le froid. Il existe 2 sortes de rhubarbe, à pétiole rouge et à pétiole vert. Dans les jardins du Québec se trouvent majoritairement les cultivars à pétiole rouge, tels que les variétés Canada Red, McDonald et Victoria, qui sont résistants au froid, productifs et peu capricieux. Petit 3, ses feuilles sont toxiques. Si les tiges de la rhubarbe sont comestibles, ses feuilles, elles, ne le sont pas. Riches en acide oxalique, ces dernières peuvent provoquer des symptômes d'intoxication lorsqu'elles sont consommées en grande quantité. Petit 4, elle a des propriétés médicinales. La rhubarbe est originaire d'Asie centrale, notamment de la Chine, où elle est utilisée à des fins médicinales depuis quelques millénaires en raison de ses propriétés laxatives. Cette plante contient également du calcium et de la vitamine K, 2 nutriments qui participent à la santé des os et au maintien des fonctions du cerveau. Elle est aussi une source de vitamine C et de manganèse. Petit 5, elle a jadis été un produit de luxe. Au Xe siècle, la rhubarbe était transportée de l'Asie vers l'Europe le long de la route de la soie. En raison des frais de transport élevés, elle se vendait à un prix supérieur à celui d'autres produits de luxe, tels que la cannelle, le safran et l'opium. Petit 6, elle indique le pH. Les pigments rouges vifs de la rhubarbe, qui proviennent des anthocyanines, changent de couleur selon le pH. En présence d'un pH acide, inférieur à 7, ces pigments deviennent rouges ou roses, tandis qu'avec un pH neutre ou alcalin, supérieur à 7, ils prennent des nuances de violet, de bleu ou de vert. Pour utiliser les pigments comme indicateur de pH, il faut extraire le jus des tiges. Petit 7, c'est une plante robuste. Lorsqu'elle est plantée dans des conditions optimales, la rhubarbe peut produire pendant près de 20 ans. Elle apprécie un sol riche et bien drainé, une exposition ensoleillée, bien qu'elle tolère aussi la mi-ombre, ainsi qu'un arrosage régulier. Peu exigeante, elle récompense la patience des jardiniers avec des récoltes généreuses année après année. Petit 8, elle se mange aussi bien salée que sucrée. La rhubarbe, avec sa saveur acidulée prononcée, se marie à merveille avec des ingrédients sucrés ou parfumés. Parmi ses meilleurs compagnons figurent la fraise, la framboise, la pomme, la vanille, l'amande et la fleur d'oranger. En version salée, elle se révèle tout aussi étonnante, s'alliant parfaitement au porc, au poisson gras et au chutney. Petit 9, c'est la saison. Au Québec, la rhubarbe est offerte en épicerie de la fin mai à la mi-septembre. Elle se conserve environ 4 jours au réfrigérateur et 1 an au congélateur, coupée en morceaux, une façon simple d'étirer la saison jusqu'en hiver. C'était 9 faits délicieux sur la rhubarbe, un texte commandité, paru le 11 mai 2026 dans la presse.
L'autisme invisible. Un texte de Catherine Hanfield, paru le 26 avril 2026 dans la presse. C'est l'entrevue de Louis T. à Tout le monde en parle d'il y a 10 ans qui a mis la puce à l'oreille de Nolia Bélanger. Elle se reconnaissait drôlement dans ce que décrivait l'humoriste qui venait de recevoir un diagnostic du syndrome d'Asperger, aujourd'hui désigné comme de l'autisme de niveau 1. Nolia avait 27 ans à l'époque. Peu de personnes de mon entourage savaient à quel point c'était compliqué, ma vie, confie la résidente de Québec, rencontrée par visioconférence. Socialiser lui demandait beaucoup d'efforts. Pour passer inaperçue, elle imitait les autres et réprimait des comportements, certains tics par exemple, une stratégie qui porte le nom de « camouflage social ». Et il lui fallait toujours tout prévoir, tout le temps. Ça demande énormément d'énergie, pallier l'imprévu, dit-elle. Nolia changeait souvent d'emploi parce qu'elle s'effondrait après quelques mois. 6 mois à l'emploi, 6 mois arrêtés. Enfant, Nolia ne parlait presque pas. Parce qu'elle avait beaucoup d'intérêt pour l'art, sa mère l'a rapidement inscrite à des cours. Et ce fut, pour la petite Nolia, une révélation. C'était la première fois que je pouvais m'exprimer par autre chose que la parole, se souvient Nolia, aujourd'hui artiste. Après un parcours du combattant dans le réseau public, Nolia Bélanger a reçu son diagnostic d'autisme en 2019, au privé. Elle confie avoir traversé une période de deuil. « Tout le monde dans ma vie m'a tout le temps dit « Tu vas voir, tu vas vieillir, tu vas changer. »« Ben non, c'est de même, » dit-elle en riant. Le diagnostic lui a fait prendre conscience de l'importance de respecter ses limites et de planifier son horaire en conséquence. Elle fait beaucoup moins de camouflage social aujourd'hui. On lui dit parfois qu'elle n'a pas l'air autiste. Nolia Bélanger hausse les épaules. Encore aujourd'hui, constate-t-elle, la vision de l'autisme est teintée par les cas les plus sévères. C'est pour contribuer à changer l'image de l'autisme, à la rendre plus diverse et plus positive, que Nolia a accepté de faire cette entrevue. Une vision du monde différente. L'autisme est caractérisé par des particularités dans 2 sphères. La communication et les interactions sociales, d'une part, et les comportements répétitifs et intérêts restreints, d'autre part. Aux yeux de Nolia, l'autisme n'est pas un trouble, mais plutôt une façon différente de percevoir le monde, de le ressentir. Pour illustrer cette différence, on utilise souvent la métaphore d'un paysage de forêt. tandis que la personne neurotypique verra le plan d'ensemble, bref, une forêt, et passera à autre chose, la personne autiste s'attardera à chacun des détails. « Comme un film qui dure 2 heures, dit-elle. Le ciel, puis les arbres, les nuages, les plantes au sol, l'insecte qui nous frôle, ça, c'est chaque minute. » L'autisme vient avec des difficultés. Soit, tout n'est pas rose, résume Nolia, qui a une contrainte sévère à l'emploi, mais aussi avec des forces. Les autistes sont des experts dans leurs intérêts particuliers, et Nolia s'attriste de voir que le système ne met pas cela en valeur. En fait, dit-elle, le système n'est simplement pas conçu pour les autistes. Nolia Bélanger fait part d'une histoire qui l'a marquée il y a quelques années lorsqu'elle faisait un projet pilote avec Autisme Québec au Musée national des beaux-arts du Québec. Elle avait organisé une série d'ateliers d'art pour les autistes adultes. Une femme avait emmené son fils de 23 ans. Au premier atelier, le jeune homme, en surcharge, était parti. L'horaire n'était pas assez précis, explique Nolia. Alors on l'a refait en indiquant heure par heure ce qui allait se passer. D'atelier en atelier, le jeune homme a pris sa place. Au cinquième atelier, il a levé la main pour poser une question, lui qui parlait peu ou pas en temps normal. Et au sixième, il a fait signe à sa mère de s'éloigner. Il discutait avec un autre participant. Selon ce que sa mère m'avait confié, les médecins lui avaient dit que son fils n'allait jamais parler ni pouvoir s'intégrer à un groupe. C'était maintenant fait, dit Nolia. Par la suite, dit-elle, le jeune homme a intégré les ateliers d'art ordinaires. Quand les choses sont faites par et pour des autistes, ça fonctionne vraiment, résume Nolia, qui a co-signé un manifeste en 2024 pour revendiquer un soutien plus adapté pour les autistes. Si on mettait à profit les intérêts particuliers des autistes et si on offrait un meilleur soutien financier à ceux qui ne peuvent pas occuper un emploi en raison de leur situation, ce serait un très grand pas, estime Nolia. Les autistes prennent un chemin différent, en zigzag, mais ce chemin permet souvent de trouver des solutions auxquelles personne n'avait pensé, souligne Nolia Bélanger, qui espère une chose, que la vision de l'autisme change. C'était « L'autisme invisible », un texte de Catherine Hanfield paru le 26 avril 2026 dans la presse.